Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites, le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie, le groove perdu va commencer, je répète, le groove perdu, va commencer,
Alors, je vous propose d'aborder ce sujet en trois grandes parties. Nous allons commencer déjà peut-être par définir ce que c'est que l'alcoolisme, de définir ce que c'est qu'un comportement de consommation excessive de l'alcool. Ensuite, nous parlerons de vos associations respectives. Alors, je me tourne vers Monsieur Belvez en tant que médecin. Comment on peut définir l'alcoolisme ?
C'est une définition très difficile qui n'a jamais fait encore l'unanimité. On connaît parfaitement le produit, ses effets, sa chimie, sa dégradation. On connaît aussi les effets sur le système nerveux, en fait, sur toutes les parties du corps. Et on ne sait pas comment on peut passer d'une consommation dite à risque ou excessive à une dépendance. La première dépendance qui s'installe semble être d'abord psychologique, plus ou moins comportementale. Et bien après, plusieurs années après, voire des dizaines d'années après, une dépendance physique se met en place, j'allais dire à l'insu de son plein gré, comme disait un autre auteur. Et le sujet ne se rend pas compte parce que ça ne s'attrape, je veux dire, c'est une maladie qui s'acquiert avec le temps. Donc une définition propre de l'alcoolisme, définissant toute la dépendance comportementale, psychologique, a toujours été difficile. On en est maintenant venu à plutôt des comportements addictifs et parler d'addiction en général. Se séparer du produit et de parler de dépendance à une modification du système nerveux. Mais le mot alcoolisme reste bien sûr bien inscrit dans nos représentations. C'est un mot qui a été inventé par un Suédois, Magnus Huss, donc en 1838. Avant, il n'y avait pas cette notion d'alcoolisme. Le mot alcoolisme n'existait pas. Et pourtant, les personnes dépendantes à l'alcool existaient déjà. Et c'est justement toutes les racines de la représentation négative qui a été faite sur les personnes dépendantes, les malades alcooliques. L'avantage de ce médecin suédois, Magnus Huss, c'est d'avoir parlé d'alcoolisme et d'avoir surtout amené la notion de maladie. Et ça, donc 1848, c'est 160 ans, hein, c'est 168 ans.
Alors, 168 ans, on a posé le mot, et pourtant, encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes n'envisagent pas que l'alcoolisme puisse être une véritable maladie, en tout cas dans la représentation qu'on en a dans la société. Est-ce qu'on a la pratique médicale? Alors, vous dites qu'il est difficile de poser une définition de ce qu'est l'alcoolisme. Est-ce que la pratique médicale a fait qu'on peut détecter peut-être des comportements qui seraient à risque? Est-ce qu'on a un seuil qui nous permet de dire oui, là peut-être que la consommation est excessive, qu'il faudra faire attention, qu'il peut y avoir un basculement vers la maladie?
C'est sûr qu'on s'est doté de seuils, de normes qui sont les normes de l'Organisation mondiale de la santé, que tout le monde connaît, 2 verres par jour pour une femme, 3 verres pour un homme. Les Canadiens ont rajouté pas plus de 4 jours par semaine. Et encore eux ont dit, surtout pas quand le conjoint n'est pas d'accord. Moi, j'aime bien ces notions-là. Mais ces normes-là n'expliquent pas tout, parce que en fait, on pourrait imaginer que le risque est dans chaque verre, dans chaque consommation, dans chaque comportement. C'est le risque d'y trouver un intérêt personnel, d'un intérêt supplémentaire à ceux déjà obtenus avec l'usage de ce produit, et que ce fonctionnement devienne un fonctionnement d'abord qui est un fait social, si privé, mais d'abord un fait social, et puis progressivement devenir un fait privé avant d'être un fait social. Et c'est ce passage-là de l'usage qui est très difficile à repérer, même sur des sujets qui sont, entre guillemets, de bonne foi, sans jeu de mots, et qui ont l'impression de ne pas être dépendants.
Sur la cour, des horizons, j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie, dans mes frusques couleurs de muraille. Je joue les épouvantails. Mais nom de Dieu dans mon âme, brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire, toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de cette chienne de vie. Mes illusions donnent sur la cour, mais dans les troquets du faubourg, j'ai des ardoises de rêverie et le sens de l'ironie. Je me laisse aller à la tendresse. J'oublie ma chambre au fond de la cour, le train de banlieue au petit jour. Et dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols, mes haras et toutes mes duchesses. À moi les petites pépées, les poupées jolies, laissez venir à moi les petites souris. Je claque tout ce que je veux au baccarat, je tape sur le ventre des maharajas.
Alors, j'aime bien, j'aime bien ce que Paul a dit à l'insu de son plein gré. En ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours assez long dans l'alcool. Hein. J'ai utilisé l'alcool au début comme une boisson. Hein. J'allais dire comme tout le monde, mais non. Hein, pour finir, tout le monde ne boit pas. Mais voilà, moi, ça a été, au départ, à l'adolescence. C'était associé au rythme de passage à l'âge adulte. Voilà, tu peux boire un verre, c'était en famille, tu peux boire un verre de vin, donc t'es grande. Voilà, donc j'ai tout de suite associé ça au fait que bah, l'alcool, c'était être grand. Voilà. Longtemps, l'alcool n'a pas été un problème dans ma vie. Par contre, aujourd'hui, avec le recul et en regardant dans le rétroviseur, mais bon, c'est aujourd'hui, je me rends compte que j'étais quelqu'un qui avait toutes les dispositions. Enfin, en tout cas, j'avais un terrain favorable, hein, parce que je tenais bien l'alcool. Alors moi, je croyais que c'était quelque chose d'avantageux, surtout pour une femme. Alors que, bah non, puisque je tenais bien l'alcool, il fallait que j'augmente tout le temps les quantités pour retrouver le même résultat. Et voilà, quoi. Et j'aimais bien. Voilà. Alors, faut le dire, hein, pendant tout un temps de ma vie, l'alcool, ça a été une boisson. Je dis bien boisson, hein, et ça a été un plaisir. Voilà. J'ai pas vu le moment où l'alcool est devenu autre chose. Je peux en parler aujourd'hui avec le recul. J'ai commencé à me servir de l'alcool pour autre chose. Que dans un moment convivial, que pour partager quelque chose, que pour boire une boisson que j'aimais bien. Voilà, j'avais quand même bien vu, bien détecté que l'alcool, ça m'aidait à vivre certaines situations que j'arrivais pas à vivre bien sans. Par exemple, moi, j'étais très timide. J'étais très timide et j'avais bien remarqué que quand j'avais bu, pas forcément beaucoup, mais quand j'avais bu, j'étais moins timide.
Ça, c'est, ça désinhibe, quoi. Hein.
Voilà. Hein, donc ça, j'avais bien remarqué. Voilà, je me sentais... voilà, j'avais quand même bien repéré cet effet. Hein, il n'y avait pas juste le plaisir de boire, il y avait aussi cet effet de l'alcool sur mon psychisme, hein, qui était pas mal, quoi. Hein. Je me sentais plus... Enfin, on me le disait, en plus, hein. Plus drôle, moins inhibé, etc., etc. Voilà. En fin de période d'alcoolisation, j'oubliais mes enfants à l'école, par exemple, parce que j'étais trop bourrée pour aller les chercher, quoi, à ce moment-là. J'avais arrêté de travailler, non pas parce que j'avais été virée à cause de l'alcool, mais je pense que j'avais voulu cesser une relation de travail parce que je commençais à sentir que je perdais pied. Voilà, donc j'étais dans un état où, en fait, je ne maîtrisais plus ma consommation. C'était pas moi qui maîtrisais l'alcool, c'était l'alcool qui m'avait complètement attrapé, quoi. Voilà, je sais pas si je suis claire.
Ça devenait un pilier, en quelque sorte.
Une nécessité.
Une partie de votre vie.
Ça devenait une nécessité. Mmh. Il m'en fallait.
Parfaitement à jeun, vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Parfaitement à jeun, je le vois qui recule, je le vois qui bascule aussi. Viens là, mon petit lit. Si tu ne viens pas à moi, c'est pas moi qui irai à toi. Mais qui n'avance pas recule, comme dit Monsieur Dupneux, un mec qui articule et qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun, je reviens d'une belle fête. J'ai enterré Huguette ce matin. Parfaitement à jeun, j'ai fait semblant de pleurer pour ne pas faire rater la fête. C'était tous en noir, les voisins, les amis. Y avait que moi qui étais gris dans cette foire. Y avait bon maman, belle papa, j'avais pas vu mille ça. Et puis Monsieur Dupneux, qui est chef du contentieux. Parfaitement à jeun, en enterrant ma femme, j'ai surtout enterré la maîtresse d'André. Je ne l'ai su que ce matin, et par un enfant de cœur qui me racontait que sa sœur, enfin, il me reste deux solutions. Ou bien frapper André, ou bien gnougnougnafier la femme d'André sur son balcon, ou bien rester chez moi, ouais. Feu cocu, mais joyeux, c'est ce que me conseille André. André.
Qu'est-ce que vous avez bu là? Vous avez fait le compte ou pas?
Non.
C'est deux verres, trois verres, quatre verres?
Oh bah c'est une bouteille et demie à deux, avec mon ami.
Plus
un petit alcool, parce que c'est vrai que le vin, c'est pas ça que je préfère. Et quand l'alcool est arrivé, je me suis sentie mieux, beaucoup mieux.
Pour moi, j'envisage pas de passer une bonne soirée sans alcool.
rapidement, je pourrais devenir une alcoolique. Si je n'avais pas justement cette vigilance.
Et vous êtes sûr de pouvoir maîtriser ?
Si je bois beaucoup, d'une part, je vais prendre des kilos. Et d'autre part, je vais avoir des vaisseaux qui éclatent, je vais avoir une tête qui va se défraîchir. Et j'approche la quarantaine, et là, ça devient dangereux.
J'aime un peu être quelqu'un d'autre. Enfin, je suis moi, mais un peu désinhibée. J'ai l'impression quand même que je peux dire plein de choses ou faire plein de choses que je pourrais pas faire sans boire.
Ça a commencé chez mes parents, à table. Moi, je les supportais pas, alors... J'ai constaté que un petit fond de verre, puis ça passait beaucoup mieux. Je les entendais plus. Et ça a fait pas mal leur pas comme ça. Puis...
Vous aviez quel âge ?
Oh, 18-19 ans, quoi. J'étais en hippocane, j'avais passé le bac. Et... Puis après, je rentrais dans ma chambre, et puis je m'apercevais quand même que j'avais du mal à me mettre au boulot, quand même. Il fallait 5 minutes pour m'y remettre. J'étais bien. Et quand je me suis retrouvée à 11h du matin complètement biturée, je me suis dit que là, il fallait sans doute faire quelque chose. Quoi.
Ça aide dans les études ou ça...
Je crois que ça aide beaucoup. Enfin, à partir du moment où on n'est pas complètement abruti. Hein. Mais quand on a trouvé la dose qui permet de... qui aide, je crois qu'il y a, dans l'alcool, il y a un moment où on commence à être détendu, il y a un moment euphorique où justement ça aide au maximum, puis après il y a le moment où on est abruti, où ça n'aide plus. Alors en langue, bon, je faisais de l'allemand. Je connaissais toute la règle de grammaire par cœur, et tout vraiment bien, mais pour réussir vraiment à parler, un verre ou deux, ça aidait. Je parlais beaucoup mieux allemand quand j'avais bu.
Acheter de l'alcool pour une femme, c'est pas toujours facile.
Bon, ça va. Sauf que, par exemple, quand il m'en fallait deux fois par jour, je changeais d'épicerie. C'est... Parce que quand même, 2 litres de bière pour une seule personne en une journée... Le week-end, j'ai essayé d'en acheter un peu d'avance. Tout en ne voulant pas en acheter trop. Enfin, de toute façon, je buvais tout de suite. Alors, le problème, c'était le lundi, parce que le lundi, il y a beaucoup d'épiceries qui sont fermées, puis j'étais à court. Et c'est quand même là que je me suis rendu compte que les lundis, il m'en fallait. Je suis peut-être pas une alcoolique classique, mais je pense que mes relations avec l'alcool sont pas nettes du tout.
Mais on va où, là ?
On va sur la terre, il paraît qu'il y a à boire.
Ah ouais, bah y'a intérêt, hein. Et tu crois qu'il y a des MC aussi ?
Ah bah ça, je suis pas vraiment sûr.
Ouais, tu m'étonnes, parce que les bons MC, ça court pas la galaxie. Je suis pas machinalement, je suis réglé, top dépendant, je deviens tremblant, bout de 4 jours sans picotement, mal dedans, mal dehors, mal mi-dors, j'ai déréglé mon corps. Il me parle et me rend chétif devant mes troubles obsessionnels compulsifs, programmé pour noyer mon abstinence, dans moi 4 grammes et j'assais du gadram. Au bout de 2 bouteilles de vodka pomme Z, maintenant c'est trop noir jusqu'au bed. Je préfère banquer que de manquer, je tape mon code toute la nuit, je donne des nouvelles à mon banquier. Articulation du coude, élocution qui bug, je reboot. Quelques gouttes dans le mécanisme, je tape Q8, elle se brache, je court-circuit. Q-H-U-I-T, programmé pour picoler. Topq8.com, y'a des taillons si t'es pas bonne. Q-H-U-I-T, programmé pour picoler. Topq8.com, y'a des taillons si t'es pas bonne.
3-6 flip, j'ai bouffé une PlayStation 4-8-6, tu flips sur niveau de ma session. J'm'étonne ni aucun lament, j'suis une cash machine. J'coupe tous mes handrails, envoie le fiche, fais le drive. Mets du rock'n'roll dans mon slide et du hip-hop dans mon flow. SK8 pour Q8, j'bois un twist, j'ai bon Mac twist. J'suis DSP pour catcher sur ma bande quand j'ride. Ma bière à rabord sous le micro quand j'braille. Maintenant relis sur le parvis, mes 3 plates, 3 automes à la tombe, j'suis un donf en salome au troca. 3-4-0-Q8-6, mon matricule pour la lune.
Q-H-U-I-T, programmé pour picoler.
Je
commence à boire, en principe, je n'arrête pas. Il faudrait absolument pas que je touche à une goutte d'alcool. Et ça, en même temps, pour le moment, en tout cas, je peux pas m'en empêcher. Donc, ça, évidemment, il y a quand même un aspect assez angoissant pour l'avenir. Bon, parce que si ça devient carrément une fois tous les trois jours, ça devient invivable. Là, c'est la pente, c'est la déchéance. Carrément, c'est bon. Parfois, ça arrive à tout le monde de croiser des clochards et pris de boisson dans la rue, mais des fois j'ai un choc, bon, surtout envers les femmes, parce que c'est vrai que les femmes, il y a une déchéance physique que de toute façon on accepte moins. Quoi.
Quelquefois d'arrêter pour rentrer chez soi et se retrouver quelquefois dans la solitude. Bon, et là ça peut effectivement un petit peu dépasser, mais enfin jamais très loin quand même.
Vos enfants, ils vous ont vu quelquefois un peu pompette?
Oh, c'est arrivé, oui. Oui.
On éprouve quoi dans ces cas-là?
Vis-à-vis d'eux Oh, non, ça me gêne pas, parce que, bon, ils ont vu d'autres gens, ils n'ont pas à vivre dans une situation... Je n'ai pas du tout envie de leur donner l'image de quelqu'un avec une auréole sur la tête et d'une sainte. Moi, j'ai toujours vécu ma vie telle qu'elle était, je ne me suis jamais gênée vis-à-vis de mes enfants, et j'ai des défauts comme tout le monde.
Claire, comment tout ça a commencé ?
Tout ça a commencé pendant mon adolescence. Mon père était haut fonctionnaire et j'avais souvent l'occasion d'assister à des vernissages, à des cocktails, à des réceptions. Ça signifiait donc un ou plusieurs verres de champagne ou de whisky. J'aimais bien ça et cela me donnait de l'assurance. C'est un médicament contre ma timidité. Au début, les premières années, je n'en consommais que chez moi, au repas. Même quand j'ai vécu seule, après un mariage qui était très bref, et que je me suis installée seule dans un studio, seule, jamais prendre quelques verres de vin avec le repas, un apéritif avant. Puis il m'a fallu de l'alcool dans la journée, au repas de midi. J'avais hâte d'arriver à l'heure du déjeuner. Bientôt, ça n'a pas suffi. Alors j'ai emporté une flasque dans mon sac à main.
Whisky ?
Whisky, oui. Je me cachais pour boire, j'allais aux toilettes pour boire. Et un beau jour, j'ai pris de l'alcool le matin en me levant. Que j'étais angoissée, j'avais peur d'aller au travail. Et j'ai bu un fond de verre de whisky. Et de jour en jour, le fond de verre de whisky est devenu de plus en plus grand. Et les quantités d'alcool que j'emportais au bureau devenaient de plus en plus grandes également. La flasque n'a bientôt plus suffi. Emporter une bouteille entière, ça devenait dangereux. J'ai fini par mettre de la vodka à ce moment-là, parce que le whisky, ça se voyait un peu trop. Je mettais de la vodka dans des bouteilles de Vichy ou d'Evian. Je me persuadais à moi-même que personne au bureau ne s'en rendait compte. Et puis est arrivée la catastrophe. J'ai perdu deux emplois consécutifs à cause de l'alcool. Le premier emploi, je n'avais pas encore été trouvée ivre véritablement au bureau, mais le second, il a fallu me transporter dans un autre bureau parce que j'étais ivre morte. Et en fait, l'alcool, oui, ça rejoint cela en ce sens que ça signifiait pour moi à ce moment-là la liberté. Et je ne savais pas que ce que je croyais être une liberté allait devenir pour moi le plus terrible des esclavages.
Vous êtes fait piéger.
Entre les mains, sans alcool, la fête est plus molle. Sans alcool, ta tête est moqueuse. Ma vie plus coûte. intelligent. Le bras levé, tu es intolérant. Attirant les pieds, toi, tu trouves ça marrant. Regarde sombre dans ta pensée. Le malheur est la fin de ton bonheur. Mais il n'est pas tout seul. Il y a des pauvres, on se prend à la gueule. La gueule en cours, mais il n'est pas tout seul. Il y a des pauvres, on se pleure la gueule. La gueule en cours, mais il n'est pas tout seul. Il y a des pauvres, on se pleure la gueule. La gueule en cours, mais il n'est pas tout seul. Il y a des pauvres, on se pleure la gueule.
Si vous fallait payer chaque fois que vous buvez, ça vous coûterait combien à peu près? Par jour?
Ouh là
par
là. Ah, bah, c'est-à-dire que comme je bois que le soir dans des endroits nocturnes où les verres d'alcool sont assez chers, je pense, je n'ai pas calculé, mais que dans une soirée, parfois, ça pourrait revenir, je ne sais pas. Oh là là, quand je pense aux verres dans les boîtes, non, c'est fou, je ne sais pas, 1000 francs peut-être, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous ferait arrêter?
Peut-être un enfant me fera arrêter, parce que ça, vraiment, c'est... quand je me pose la question, c'est vraiment une image que je ne supporterai pas. D'être saoule devant un enfant, c'est vraiment une image qui m'est intolérable. Mais a priori, je n'ai pas d'enfant, donc... a priori, ça, je pense que ça serait vraiment pour un enfant, je pourrais arrêter.
Les derniers temps, c'était à peu près en 2 heures, je m'enfilais 2 litres de whisky pour être bien raide, quoi. La descente, la grosse descente. Et puis, 2 mois avant d'arrêter, en fait, j'ai décidé de supprimer toutes les bouteilles de la maison. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro parce que j'avais des tremblotes pas possibles et je cherchais de l'alcool partout, en fait. Alors, je téléphonais à ma petite maman chérie qui habite à côté. Je disais, j'ai des copains qui sont de passage, tu veux pas me dépanner d'une bouteille de blanc? Que je m'enfilais allègrement, toute seule, tranquille, quoi. Et puis, le 19 mai, ma fille m'a fait une réflexion à 4 ans et demi. Juste avant de sortir avec des copains, je m'étais enfilé vraiment une bonne dose, une bonne rasade de whisky. Elle est passée à côté, puis elle me dit, mais ça suffit. Alors là, j'ai vu vraiment mon avenir. Je me suis dit, c'est la fin. Elle ne me présentera jamais ses amis, mère alcoolique, poivrotte. J'ai dit, il y a eu le premier déclic, déjà.
Alors qu'est-ce qu'on éprouve, là?
Moi, j'ai éprouvé beaucoup de haine et beaucoup de dégoût, vraiment pour moi-même, parce que j'ai vu ma fille qui se rendait compte de ça. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui proposer? Je suis séparée de son papa.
Il est parti à cause de ça?
Je l'ai quitté en partie à cause de ça.
Nous sommes dans un bistrot, là. Il y a des gens qui boivent autour de nous, d'autres femmes boivent autour de nous.
Ah, je cracherai
pas. Ça ne
tente pas? Ah oui, ça me tente un peu. Ça me tente un peu, mais ça ne veut pas dire... parce que ça me tente, mais je ne le ferai pas. Parce que je sais que ça entraînerait 10 derrière.
C'est-à-dire, si vous buvez un verre, il y en a 10 qui
se... Il y en a 11. Donc ça, non. De toute façon, j'ai dit, le jour où je rebois un verre, je me flingue. Ça, c'est clair et net.
Ta guitare est cassée? Oh, tout est foutu, brisé dans mon crâne. Ça sent le pourri, enfermé. Ouais, t'as raison, hein, on est là, pas là-bas. Tant pis pour nous. On est là, mais sans sous, il me semble pas que ce soit leur cas. Eh, mais t'as pas vu, il reste du pain, de la bière, un peu de braise. Oh, fais donc un feu si ça peut te rendre à l'aise. Moi, j'oublie pas. Avec vous sans ça, j'y peux rien. Thank you. Toi aussi la vie te semble étrange depuis qu'ils sont partis. Oh, j'ai jamais été un ange, mais depuis que je suis ici, bah... Eh mais Polo, le monde est petit, hein. On pourra les trouver. Ici ou ailleurs, rester au parti, c'est paumé que chiner. Et comment? Et pourquoi? Avec quel argent? Tu peux me le dire, toi? Pourquoi pas? J'irai sur les ports valser puisque le monde va bien de ce que disent les marins. J'irai dans les rues, les chemins, chanter dans tous les bars avec mon sac, mes sandales. J'irai sur les marchés du monde raconter mes histoires, jour avec leur pinard. On a sorti la messe le dimanche, bah moi je taperai la manche aux bourgeois qui sont là. Et chanterai mes chansons ignoles, ça plaira au curé, j'appliquerai tout son blé. Qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure une heure ou deux, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage après tout ne concernait que moi. Ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais, c'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrognier, pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui pèsent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard.
Je bois pas parce que j'aime le vin, ni que j'aime la bière. Au contraire, quand je veux me faire plaisir, je m'achète une bouteille limonade. J'aime les choses sucrées, j'aime... Mais je bois sciemment. Si je bois, c'est parce que je m'en pour la recherche de cette euphorie qui nous fait un coup de gomme sur le passé. Et puis qui éclaircit un petit peu l'avenir. Il est un petit peu plus rose.
Est-ce que vous avez peur de vous regarder en face, de réfléchir sur vous-même? Pourquoi?
Parce que ce que je vois, c'est pas beau.
Vous vous fuyez, au fond.
Exactement.
Et lorsque vous buvez une bouteille de limonade, vous n'arrivez pas à vous fuir, mais si vous buvez de l'alcool, vous pouvez vous fuir. Cette fuite, ça commence à partir de combien de décis?
Partir de 3 fois 3.
Oui.
Ou 4 fois 2.
ce moment-là, vous êtes mieux.
Le roi n'est plus mon cousin.
Vous avez beaucoup de copains de beuveries comme ça?
Oui.
Vous les estimez ou vous les méprisez, ces copains?
Mon Dieu, que moi je les estimerais pas, puisqu'ils fuient comme moi leur passé.
Vous discutez de vos problèmes avec eux?
Souvent.
Oui.
Souvent.
Puis ça vous fait du bien?
Non, ça ne peut pas faire de bien, parce que de toute façon, si on parle entre nous, on repart sur le passé. Alors si on retourne 20 ans en arrière, on recommande de laisser.
Oui. Et vous n'avez pas la volonté d'essayer de changer votre vie? Vous estimez que c'est trop tard?
C'est trop tard. Réellement trop tard.
Croyez vraiment? Vous n'avez plus la force physique?
Le physique, je me parle, je pense. Non, physiquement, je suis très diminué, mais ça n'a pas d'importance. Mon cerveau ne l'est pas. Il fonctionne peut-être pas à plein rendement, mais je suis encore lucide. Et c'est pourquoi on est malheureux.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous faire changer?
Il faudrait peut-être que je vous voie plus souvent.
Qui?
Je me sens, depuis une demi-heure, hein, de nouveau dans la société.
Vous avez le sentiment d'être valorisé parce que je vous interview maintenant?
Un peu, oui.
Vous faites une sorte de complexe d'échec, au fond. Ça vous fait peut-être
pas une sorte. Un complexe d'échec absolu.
Encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ta santé, toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer, buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer, et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront, je Je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre encore.
Je suis sous, 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 sous ton balcon. Comme Roméo. Marie-Christine, je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus, je suis rond, 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 rongé de remords. Je suis un salaud. Oh, oh, Marie-Christine, je t'en prie, encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance encore, dis, recommençons. Moi, il y a du bon aussi. Ne me fais pas plus noir que je suis. Je suis bourré, bourré, bourré de bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot. Wow! Marie-Christine, c'est sérieux. J'ai balancé mon dictionnaire de rime. Je n'écris plus de chansons. Non, je travaille pour de bon. Mes copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs, je te les ai amenés. Tu n'as qu'à leur demander. On est sous, 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 sous ton balcon. Comme Roméo. Je t'en supplie, mon trésor, réponds, réponds, Marie-Christine, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
Il m'est arrivé tellement de situations assez graves à cause de l'alcool, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai complètement perdu la mémoire et je me suis retrouvée dans des boîtes de nuit, etc. J'ai encore des doutes sur ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression que ça faisait partie d'un personnage un peu de super-héroïne et que je picolais avec mes copines et qu'on défonçait les garçons. Mais en fait, le soir, après, des fois, souvent, je pleurais. Le lendemain, j'étais fragile. J'ai toujours beaucoup bu, en fait, parce que j'ai toujours été dans l'excès. Je suis quelqu'un qui a toujours été dans l'excès. Et donc, l'alcool faisait partie de mes excès. Avant, il y a eu la drogue, il y a eu la cigarette. Voilà, j'avais du mal à me contrôler. Et je pense que voilà, c'est venu progressivement, je me suis rendu compte des dégâts que ça faisait dans ma vie. Et puis un jour, je me suis fait licencier, et puis là, je bougeais plus de chez moi, et je buvais toute seule, et je buvais pour boire, quoi. Et puis là, ça avait alors là, plus rien du tout de flamboyant, ni de chic, ou de quoi que ce soit. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai écrit ce livre justement pour dire que en fait il n'y avait pas des alcoolismes en fait. Enfin il n'y avait pas les gens qui buvaient juste parce qu'ils sont bons vivants et flamboyants et puis il y a les autres qui sont des alcoolos quoi. En fait c'est vraiment une erreur et puis c'est une façon de se planquer que je trouve extrêmement limite. C'est-à-dire que moi en fait effectivement je présente bien, j'ai pas du tout la tête de l'emploi. C'est vrai que si on me compare à un mec qui est au pastis à 9h du matin, visuellement c'est pas la même chose et pour autant l'alcool m'a sans doute fait autant souffrir. Et même physiquement, m'a autant attaqué que cet homme-là. Je pense que l'alcool, c'est beaucoup, pour beaucoup l'apprentissage de la masculinité, de la féminité. En fait, on se construit beaucoup des jeunes à travers l'alcool, en fait, parfois sans s'en rendre compte. On a l'impression que c'est ce qui nous rend plus fort, on a l'impression que c'est ce qui nous aide à tenir, à aimer, etc. Et moi, je pense que ça a vraiment été le cas. Je pourrais pas parler pour toutes les femmes, mais je peux parler pour moi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alcool est très lié à ma féminité. Très jeune, j'ai eu des problèmes à être une femme parce qu'on m'a accolé beaucoup d'étiquettes que j'aimais pas et j'avais envie d'être sans genre. Et du coup, j'ai bu un peu pour détruire qui j'étais, pour détruire cette féminité-là. Il y a beaucoup de femmes quand même qui boivent parce qu'elles ont l'impression d'être les fautives. Moi, c'était le cas, par exemple. C'est-à-dire qu'entre la pression qu'on mettait au travail, entre toutes les choses qu'on me disait tout le temps, t'es trop ci, t'es trop ça, machin, moi, je rentrais le soir, j'avais qu'une envie, c'était de me rétamer la gueule, quoi. Et je le faisais toute seule, je le faisais avec des copines. Et en fait, je pense que les femmes, au lieu de pendant longtemps et surtout avant le MeToo, en fait, au lieu de blâmer le système oppressif, elles se blâmaient elles-mêmes. Et l'alcool faisait partie des mauvais médicaments qu'elles utilisaient. Boire, c'est une norme qu'il faut déconstruire, en fait. C'est débile, mais moi, par exemple, ça me rassurait beaucoup de voir des femmes à l'écran qui buvaient toutes seules, parce que je me disais, ah, elles sont cool, elles boivent. Ben, il faut la même chose, quoi. Il faut des meufs subversives qui boivent pas et qu'on se dise, ah, bah, tiens, en fait, on peut être subversive sans picoler, quoi.
Alcoolique toxicomane 3.0. Alcoolique, toxicomane, encore une fois je me trépane. Alors que tout va bien, que j'ai même pas de chagrin. Pourtant je ne suis pas novice, je connais bien mes vices. Encore une fois j'y glisse. Toi tu découvres le chemin, je t'entends encore me dire hier de ne m'inquiéter de rien, que c'est la première et la dernière. Regarde-toi aujourd'hui, recroquevillé sur ce lit, à supplier le doux produit. Alcoolique, toxicomane, craqué au cocaïnomane. Ce refrain qui me vient, dépression au-dessus du jardin. Je fais pleurer ma maman, laisse à ma femme que du tourment quand je replonge la tête dedans. Toi tu ne t'y attendais pas de te réveiller un beau matin en grelottant sous les draps et découvrir ce qu'est d'être en chien. Moi quand je tire le piston, j'obtiens cette rouge coloration mettant tout mon corps en effusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai marre. Je vaux mieux que ça et alors me sépare de ces vieilles manies, une pipe au chou talus dans ma vie. Heureusement j'ai la chance d'être vivant. Mieux que ça, je veux vivre longtemps. Alors je t'emmène avec moi, laissant derrière nous tout ce fatras. De gueuler tout haut, que je tire un trait sans faux jeu de mots. Fier de vous dire qu'à présent j'ai décidé d'être vivant. Et même s'il m'a fallu du temps, 4-5 sevrages et toutes mes dents. Et même s'il m'a fallu tout ça pour refuser d'être au trépas, je me débarrasse de ces angoisses et c'est la vie qu'enfin j'embrasse. Ex-alcoolique, ex-toxicomane, ex-cracker, ex-héroïnomane. Je me sens pousser des ailes, la lumière au bout du tunnel. Je ne cours plus après ma dose, le jour se lève et c'est grandiose. Ces doux rayons jaunes, violets, roses. Toi que j'ai ramené de l'au-delà, ou c'est l'inverse, je sais plus très bien. À tous ceux qui ont connu cela, encore me noter des deux points. Ne croyez pas que vous êtes seul, vous avez qu'à regarder ma gueule. Mais réveillez-vous avant le linceul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai marre. Je vaux mieux que ça et alors me sépare de ces vieilles manies, pipe au chou talus dans ma vie. Heureusement j'ai la chance d'être vivant. Mieux que ça, je veux vivre longtemps. Et je vous emmène avec moi, laissons derrière nous tout ce fatras.
Ce jour-là, comme depuis plusieurs plusieurs semaines maintenant, je bois du matin au soir. Je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Je suis au sommet de mes problèmes d'alcool et je perds complètement la notion de la réalité. Donc je me mets au bord de la fenêtre.
Vous êtes à quel étage ?
Je suis très très haut. Alors je ne sais pas exactement à quel étage. Je sais que je suis au dernier étage de l'hôtel, ça c'est sûr. En tout cas, c'est suffisamment haut si je veux en finir pour en finir. Ça c'est une certitude. Donc je suis là assis et je jauge en fait. C'est très étrange. Hein. Je m'imagine sauter. Et je veux voir ce que ça me fait. Est-ce que je sens un apaisement ? Parce que j'en ai plus dans ma vie. C'est-à-dire que l'alcool ne m'apaise plus, les médicaments ne m'apaisent plus, les psychiatres peuvent rien pour moi, en tout cas à ce moment-là. Donc je ne vois plus rien. Et j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai une grande tournée à succès, j'ai tout ce que je veux, et je suis quand même très très malheureux. Donc je vois plus d'issue. Et quand vous voyez plus d'issue, ben vous faites ça.
Et à ce moment-là, votre meilleur ami, qui est dans votre équipe sur la tournée, entre dans votre chambre.
Voilà, c'est ça.
Il vous découvre, assis sur le bord de la fenêtre, les pieds dans le vide. Comment il réagit ?
Alors, il m'a dit plus tard que lui était terrorisé au fond de lui, bien sûr. Mais à ce moment-là, il va rester extrêmement calme. Et il va pas me forcer à rentrer. Il va me dire, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que ça te fait d'être là ? Donc, il a été très intelligent. Parce qu'il a compris que j'allais pas rentrer, de toute façon. Là, il va se passer une deuxième étape. Je regarde les arbres qui sortent donc de la terre et je dis à Michael, je vois des excroissances de la mort. Et quelques secondes après, c'est comme s'il n'est plus là du tout en fait. Je ne vois plus que le vide et j'ai envie de sauter. Et ce que je ressens à ce moment-là, c'est de la joie. Tous les problèmes qu'on a dans la vie n'ont aucune importance, je vais simplement pousser un peu sur mes mains. Et dans quelques secondes, cette souffrance va disparaître. Je vais fermer les yeux et je vais commencer à pousser sur mes mains pour tomber. Et tout à coup, je suis terrorisé, comme si on voulait me pousser. Donc je tremble comme ça et je dis à Michael, fais-moi rentrer, je vais tomber. Comme si on m'avait mis là sans mon avis. Et je dis à Michael, il faut m'enfermer, je vais sauter. Et je veux pas sauter, je veux pas mourir.
Et à l'époque, vous buvez depuis combien de mois, combien d'années ?
Ça fait déjà un an que je bois tous les jours, et quand je me retrouve à cette tentative de suicide, ça fait surtout plusieurs semaines que je bois du matin au soir des doses extrêmement fortes, et ça fait au moins 3 jours que je ne dors plus. Parce que je commence à ajouter à l'alcool des médicaments. Donc je prends beaucoup de cortisone pour tenir la journée, je prends des Lexomil le soir pour essayer de dormir, et donc il n'y a plus rien qui marche, hein, évidemment. À ce moment-là, vous êtes beaucoup trop sous substance pour que quoi que ce soit ait un effet, hein. C'est juste que vous êtes sur un espèce d'état flotteux, pâteux, horrible en permanence, il n'y a rien d'autre à ce moment-là.
Et vous buvez quoi ? Jusqu'à quelle quantité ?
Le matin, je bois du whisky parce que je veux boire. Dans ma tête, je me dis, je bois pas beaucoup et j'ai un maximum de résultats. C'est très bizarre de penser comme ça, mais je vous dis comme je pensais. Et le midi, je vais boire du rosé. Vous savez, de toute façon, on est dans une dépendance, hein, donc
et
faut
c'est
pas,
quoi
faut
une
pas
bouteille
chercher.
De rosé ?
Ah non. J'allais boire, oui, une bonne bouteille de rosé, voire deux le midi, généralement. Et après, le soir, je pouvais boire. Sans aucun problème, 3-4 bouteilles. Sur la fin, je pouvais boire 5-6 bouteilles de rosé par jour sans aucun problème.
Oh, sacrant, il fait sec, là. J'ai soif, plus qu'un bref soif, plus qu'un bon cachet, et requoi. Ça prestige, ça perd l'hypopène, j'ai soif, donc je veux pas de l'opette au lever de coude, pas de la ration, des accoudes, faut en découdre avec le dernier des piliers, disait des cubes, par milliers, des cendres de mammouth assoiffés.
Je sois.
J'en appelle à Bacchus, à Bacchus. J'en appelle le tavernier du coin. Viens de me la bailler belle. De son établissement, j'étais le meilleur pilier. Quand j'eus bu tous mes sous, il me mit à la porte en disant les poivrots, le diable les emporte. Ça ne fait rien, il y a des bistrots bien singuliers. Un certain va-nu-pied qui passe et me trouve vivre, mort croyant tout de bon que j'ai cessé de vivre. Vous auriez fait pareil sans prit à mes souliers. Pauvre homme, vu l'état piteux de mes godasses, je doute qu'il trouve avec son chemin de Damas. Ça ne fait rien, il y a des passants bien singuliers. Un étudiant miteux s'en prit à Maliquette, qui à la faveur de la nuit lui avait paru coquette. Mais en plein jour, ses yeux ont dû se dessiller. Je le plains de tout mon cœur, pauvre enfant, s'il a mise, vu que d'un homme heureux, c'était loin d'être la chemise. Ça ne fait rien, il y a des étudiants bien singuliers. La femme d'un ouvrier s'en prit à ma culotte. Passa, madame, passa, mille et un coups de botte. Autant user le fond que si vous essayez de la mettre à votre mari, bientôt je vous en fiche mon billet. Il aurait du verglas sur les miches. Ça ne fait rien, il y a des ménages bien singuliers. Et j'étais là tout nu sur le bord du trottoir, exhibant malgré moi mes humbles génitoires. Une petite vertu en train de travailler, elle qui chaque soir envoyait une douzaine, courut dire aux agents, j'ai vu quelque chose d'obscène. Ça ne fait rien, il y a des tapins bien singuliers. Le représentant de la loi vint d'un pas débonnaire. Sitôt qu'il m'aperçut, il s'écria, tonnerre, on est en plein hiver et si vous vous geliez, et de peur que je n'attrape une fluxion poitrine, le bougre, il me couvrit avec sa pèlerine. Ça ne fait rien, il y a des flics bien singuliers. Et depuis ce jour-là, moi le fier, le bravache, moi dont le cri de guerre fut toujours mort aux vaches, plus une seule fois je n'ai pu le brailler. J'essaye bien encore, mais ma langue honteuse retombe lourdement dans ma bouche pâteuse. Ça ne fait rien, nous vivons un temps bien singulier.